certaine mesure, oui. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que, en fait, ce que l'on est en train d'apprendre, c'est le principe de la parole de Dieu. Alors, il y a l'obéissance, c'est vrai. On ne lit pas la parole de Dieu simplement pour la lire. Et beaucoup de personnes pensent qu'elles remplissent leur devoir chrétien en ayant lu la Bible. Mais la lire sans la mettre en pratique, c'est un non-sens. Parce que il y a des choses qui sont dites et c'est Dieu qui les dit. Et donc, il faut s'en tenir à ce qu'il dit et puis le faire. Voilà. C'est ce qui a fait les générations de chrétiens dans le passé. On se dit, mais comment c'était possible? Ils ont vécu d'une manière vraiment différente du monde dans lequel ils étaient. Mais parce qu'ils se sont conformés à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas plus de lumière que nous. Ils avaient la même parole de Dieu que nous. Quand on lit, par exemple, l'histoire du réveil du pays de Galles, les marchands de boissons fortes ont fait faillite. C'était fini. Il n'y avait plus de ce qu'on appelle les cafés. Nous, encore café, mais c'est pas du café qu'ils buvaient. Donc, ils ont fait faillite. Et dans les prisons, il n'y avait plus personne. C'était fini. Parce qu'il y avait un changement. Un changement pourquoi? D'abord parce que Dieu donne une nouvelle nature quand on accepte. Mais ensuite parce qu'il y a une conformation à la parole de Dieu. Dieu dit certaines choses. Alors vous dites, mais comment ils sont arrivés à certains moments? Les préjugés sont très forts dans un peuple et à une époque. Il y avait des choses qui se pratiquaient, par exemple au 18e ou 19e siècle, qu'aujourd'hui on se dit, mais comment les gens ont pu avoir un pareil aveuglement et pratiquer de pareilles choses? Tuer un être humain n'avait absolument aucune. Ah bon, il fallait pas qu'il soit blanc. S'il était blanc, alors là c'était un crime. Mais si c'était les rouges, jaunes ou noirs, ce n'était pas un crime. Et vous auriez dit que ces personnes avaient une âme humaine, vous les auriez scandalisées. Mais les chrétiens qui suivaient la parole de Dieu, eux, ils ont dit non. La parole de Dieu nous dit que tout être humain est égal à un autre être humain. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de différence. Et ils sont allés évangéliser ces peuples que les autres disaient, ben, sont à peine humains. C'est encore. Mais les préjugés étaient très forts. Et il y a un mouvement chrétien qui a fait que les choses ont changé à un certain moment. Et ils ont dit non, ce n'est pas possible que l'on continue comme ça, parce que je me rappelle, nous on parle souvent du label, le label de qualité. Le label de qualité vient d'un mouvement chrétien. Les chrétiens, à un certain moment, c'était aux États-Unis, ont dit il n'est pas possible que l'on continue à voir les enfants travailler dans les usines. Ce n'est pas possible. Alors, ils ont exigé que les usines qui ne faisaient pas travailler les enfants apposent sur leurs produits un label. On dirait aujourd'hui une étiquette. Voilà. Et alors, il y avait cette étiquette et exclusivement, les chrétiens n'achetaient que les produits qui avaient l'étiquette. Si bien que tout le monde s'y est mis et les enfants ne travaillaient plus dans les usines. Parce que les chrétiens ont dit non. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que la parole de Dieu enseigne, donne un enseignement. Et on se plie à son enseignement. On ne comprend pas tout. On va parfois à l'encontre des préjugés de notre époque. Mais néanmoins, on obéit quand même à ce que dit la parole de Dieu. Et avec le temps, on se rend compte que finalement, c'était la parole de Dieu qui avait raison. Même si tout le monde le fait, eh bien, ce n'est pas une bonne raison pour que nous, nous le fassions. Et c'est vrai pour pas mal de choses et pour le péché en général, en vérité. Il y a des choses, nous chrétiens, on ne les fait pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne nous autorise pas à le faire. Par contre, il y a des choses qu'elle nous permet de faire et d'autres, elle ne nous permet pas. Alors, on se conforme à ce que dit la parole de Dieu. Il y a des choses que l'on fait et d'autres que l'on ne fait pas. Et on se maintient fermement dans ce que dit la parole de Dieu. Pas dans ce que nos voisins pensent ou dans ce que tout le monde fait, c'est la parole de Dieu dit. Et ce qui faisait la force des chrétiens dans le temps passé, c'est de toujours revenir à la parole de Dieu. Dieu a dit. C'est si bien que quelqu'un a écrit un livre un jour, ce qui faisait la différence entre les pays catholiques et les pays protestants. Et il disait, ce qui est évident, c'est que les pays protestants sont plus riches que les pays catholiques. Alors il avait fait tout un livre, hein, qui est sur cette question-là. Et il s'était rendu compte que quand les gens étaient sobres, quand ils ne vivaient pas dans la débauche et dans le plaisir et dans le luxe et les choses comme cela, eh bien ils finissent par non seulement eux-mêmes s'enrichir, mais enrichir la société dans laquelle ils vivent. Et c'est comme cela. Aujourd'hui, on nous demande de consommer, 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 il faut consommer. Eh bien, la parole de Dieu ne nous dit pas que nous devons être des consommateurs, c'est-à-dire matérialistes. Le matérialisme n'est pas le mode de vie d'un chrétien. C'est le matérialiste compte sur la matière et met sa confiance dans la matière. La matière est son Dieu. Le chrétien, son Dieu, c'est le Dieu vivant, le Dieu éternel. Ce n'est pas la matière, ce n'est pas un système politique, ce n'est pas un système religieux même. C'est le Dieu vivant qui a parlé par sa parole. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, on la lit avec sérieux, avec le désir d'apprendre non seulement à connaître Dieu, mais à connaître sa volonté. Et Dieu dit, et sa volonté est clairement exprimée dans sa parole. Et quand nous choisissons, je soupçonne que c'est David qui a écrit le psaume 119. Un jour, je vous dirai pourquoi. Mais il dit, je cours dans la voie de tes commandements. J'aime tes commandements. Vous lisez le psaume 119, vous verrez, il y a les commandements, les statuts, et tout cela a rapport avec la parole de Dieu. Et je pense que c'est David parce qu'il avait gravement péché. Et il a transgressé la parole de Dieu. Dieu avait dit quelque chose, et plusieurs choses que David a transgressées à ce moment-là. Mais il a voulu écrire quelque chose qui marque son attachement à la parole de Dieu et l'importance de la parole de Dieu. Et tout le psaume 119, le psaume le plus long de la Bible, le chapitre le plus long de la Bible, concerne la parole de Dieu. Vous avez par exemple le psaume 1. Il est dit, heureux l'homme qui ne, etc., etc., mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, si bien qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Il y a quelque chose qui travaille dans notre vie. Quand nous lisons et nous méditons la parole de Dieu sérieusement, on ne se rend pas compte, mais il y a un travail. Il y a quelque chose qui agit, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Aucune parole que vous trouverez dans ce monde n'est vivante. Elle ne changera pas votre vie. Vous pouvez lire le merveilleux poème de Victor Hugo, il ne changera pas votre vie. Tandis que si vous méditez, vous approfondissez la parole de Dieu, cette parole transformera votre vie, vous changera, elle vous donnera une nouvelle manière de penser. Vous savez que nous sommes à une époque où on n'a pas inventé le mot lavage de cerveau pour rien. Notre cerveau est lavé de toutes les manières. Vous avez beau faire, vous allumez votre poste de télévision et vous avez branché la machine à laver le cerveau. C'est une autre machine à laver, en fait. Vous en avez une pour votre linge et vous en avez une pour votre cerveau. C'est la télévision. Donc, quand vous avez allumé, on vous inculque par des procédés psychologiques, une manière de penser. Et on fait le forcing. On essaye de vous manipuler, 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 jusqu'à ce que vous soyez un consommateur complètement irresponsable. Vous pouvez signer des chèques, vous pouvez mettre la carte bleue dans la machine, tout va bien. Et si ça ne marche pas, ben vous avez une carte de crédit, un crédit que l'on peut vous faire, tout ira bien. Mais jusqu'au moment où tout va pas bien. Mais après tout, on vous dit, vous avez tellement consommé que maintenant vous êtes bon à jeter et vous n'êtes plus un bon consommateur. Vous avez épuisé votre capacité à consommer, donc on vous met de côté. Mais le problème, c'est que nous sommes transformés aussi. Même si ce n'est pas une parole vivante, c'est une manipulation. Et notre réponse à la manipulation de ce monde, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez être capable de réagir à certaines pressions qui sont sur vous, méditez la parole de Dieu. Et il y a des choses, vous direz, mais on me dit ça, mais c'est complètement fou. Un jour, je regardais un film à la télévision, ah, vraiment un film avec un suspense, vraiment quelque chose de... Ah, pour le suspense, il était parfait, hein. Mais après, pour le reste, c'était différent. Mais c'était l'histoire d'un homme qui avait trompé sa femme et qui partait avec sa secrétaire. Et la femme courait après lui parce qu'elle l'aimait énormément. Et il avait des enfants aussi. Mais tout allait bien, il se sauvait. Et cette femme possessive, agressive, vraiment qui l'accaparait et qui ne le laissait pas libre de faire ce qu'il voulait avec sa secrétaire, eh bien, le poursuivait. Et l'avion allait partir. C'était vraiment, l'embarquement était imminent. Et il courait dans le couloir. La secrétaire l'attendait dans l'avion. Le suspense, hein? Vraiment. Et on sentait, mais il va l'attraper, cet avion, l'attraper. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais quelle pensée tu as? C'est l'adultère. C'est sa femme légitime. Il n'a pas à courir après cet avion. Il n'y a pas de suspense là. Qu'il rate l'avion. C'est normal. Et je me suis dit, mais je suis averti. Je sais. Et malgré tout, je suis manipulé. Et je l'accepte. Et alors je me suis dit, non, ça c'est terminé, hein. Cette affaire-là, c'est pour la dernière fois. Et je me rappelle avoir donné cet exemple dans une prédication, c'était à Toulouse, on était des pasteurs, et il y a, à la fin, j'ai donné cette illustration, et un pasteur est venu me voir, il m'a dit, ah, je te remercie, hein. Je viens d'acheter un poste de télévision, et il repart, hein. Il venait de l'acheter, il a dit, ah, là, j'ai compris. C'était un bon Américain, Curtis Gibson. C'était un ami, on est devenu ami à ce moment-là. Mais il était droit comme pas plus droit que lui, hein, on ne pouvait pas, c'est pas possible. Et il a dit non. Ça c'est, je regrette. Là, j'ai compris. C'est la parole de Dieu qui nous préserve de cette pensée ambiante. On ne sait pas comment on reçoit certaines idées, mais je peux vous dire, vous les recevez. Et ça peut être par la télévision, ça peut être par la publicité, ça peut être par les journaux, ça peut être de toutes les manières. Et il y a par la répétition, il répète, il répète, il répète. Et bon, d'autres moyens, je ne veux pas entrer dans ces détails. Mais notre réponse, nous avons quelque chose qui est de très puissant, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle travaille en nous, elle change nos manières de penser, elle change nos dispositions, à condition que nous le voulions bien et que nous acceptions que cette parole change notre vie. Et elle changera. Si vous le voulez, elle changera. Et il y a des choses, vous dites, mais je pensais comme cela dans le passé, maintenant je pense différemment. Avant j'étais attaché à ceci, maintenant je suis attaché à autre chose. Il y a une libération, un affranchissement de cette mainmise de l'esprit du monde dans notre vie. Et quand je dis l'esprit du monde, il y a même des gens du monde qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu, hein. Ils se sont des inconvertis, même ils sont parfois contre la parole de Dieu. Mais ils vous disent, il y a une manipulation, on devient des animaux, on est des consommateurs. Vous savez, quand vous avez un élevage d'animaux dans une ferme, on leur donne à manger parce qu'ils produisent quelque chose. Ils produisent de la viande, de la laine, tout ce que vous voulez. Et nous sommes réduits exactement à ce schéma-là. Nous sommes des animaux que l'on engraisse d'une certaine manière pour qu'ils produisent quelque chose et qu'ils enrichissent à une certaine forme, etc. Je ne veux pas dire plus, mais la comparaison, si vous regardez bien, la comparaison est plus exacte que vous pensez. On a fait de nous du bétail. Et les multitudes qui sont dans nos rues et nos voisins et tout cela, on les manipule de telle manière qu'ils se comportent comme du bétail, comme s'ils étaient des animaux. Et qu'on puisse les pressurer bien comme il faut. Ils travaillent, et quand ils ne peuvent plus travailler, bien. Et un jour, eh bien, on piquera les gens parce qu'ils ne sont plus productifs. Et ça, la manière de. La pensée arrive, hein. On tue bien les bébés, on tuera bien un jour les personnes âgées, parce qu'elles coûtent à la société, elles ne produisent pas assez. Donc, il y a un moment où la chose. Elle est déjà venue, hein, dans la pensée, il y a des gens qui le veulent. Donc, c'est la parole de Dieu nous garde de cet esprit du monde, de cette pensée. Il y a un moment dans la vie d'un chrétien où il prend la résolution d'être différent des autres. Et il choisit la voie des commandements de Dieu. Et la parole de Dieu dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie. C'est le psaume 1. Vous pouvez l'apprendre par cœur, hein. Vous verrez qu'il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent disperse. Et les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Un jour, il y a le jugement de Dieu. Et les méchants ne tiendront pas devant le jugement. Ils ont vécu pour des choses qui n'en valent pas la peine. Des choses qui sont vides. Des choses qui n'ont aucun intérêt. Elles rem ne remplissent pas le cœur. Si elles remplissaient le cœur, eh bien, celui qui a 1 million d'euros, il arrêterait et il chercherait pas à en avoir un deuxième. Ou un troisième, ou un dixième, ou un millième, ou un 100 milliardième, je ne sais pas, autant ils peuvent en avoir. Ça remplit pas le cœur. Si ça remplissait le cœur, eh bien, ils auraient cessé d'en avoir. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Voilà, on va s'arrêter là parce que il y a